Chapitre 8 et 9. La sacrificature. Christ, sacrifice et sacrificateur. Ayant considéré la doctrine du sacrifice telle qu'elle est développée dans les sept premiers chapitres de ce livre, nous arrivons maintenant à la sacrificature. Ces deux sujets sont intimement liés. Le pécheur a besoin d'un sacrifice. Le croyant a besoin d'un sacrificateur. Nous trouvons l'un et l'autre en Christ qui, après s'être offert lui-même à Dieu sans tache, est entré dans les fonctions de son ministère de sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Nous n'avons besoin d'aucun autre sacrifice, ni d'aucun autre sacrificateur. Jésus est divinement suffisant. Il communique la dignité et la valeur de sa propre personne à tous les offices qu'il remplit, à toutes les œuvres qu'il accomplit. Comme sacrifice, il introduit les croyants dans une relation intime avec Dieu, et comme sacrificateur, il les y maintient selon la perfection de ce qu'il est. La sacrificature est pour ceux qui ont déjà certains rapports avec Dieu. En tant que pécheurs, par nature et de fait, nous avons été approchés de Dieu par le sang du Christ. Nous avons été mis en relation avec lui. Nous sommes devant lui comme les fruits de son œuvre. Il a ôté nos péchés d'une manière digne de lui, afin que nous puissions être devant lui, à la louange de son nom, comme monument de ce qu'il peut accomplir par la puissance de la mort et de la résurrection. Mais, bien que nous soyons complètement délivrés de tout ce qui pouvait être contre nous, parfaitement acceptés dans le bien-aimé, parfaits en Christ, nous sommes pourtant en nous-mêmes, aussi longtemps que nous vivons ici-bas, de faibles créatures, toujours portées à s'égarer, prêtes à tomber, exposées à diverses tentations. Comme telles, nous avons besoin du ministère incessant de notre grand souverain sacrificateur. Sa présence dans le sanctuaire céleste nous maintient dans toute l'intégrité de la place et de la relation où nous sommes par grâce. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Hébreux 7, verset 25. Nous ne pourrions nous tenir un instant debout, ici-bas, s'il n'était pas vivant pour nous, là-haut. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Jean 14, verset 19. Un sacrificateur dans le ciel. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, verset 10. La mort et la vie sont inséparablement liées dans la dispensation de la grâce. Mais remarquez que la vie vient après la mort. C'est à la vie de Christ ressuscité d'entre les morts, et non à sa vie ici-bas, que l'apôtre fait allusion dans le passage que nous venons de citer. Cette distinction est digne de toute notre attention. La vie du Seigneur Jésus sur la terre était infiniment précieuse, cela va sans dire, mais il n'entra dans la sphère de ses fonctions sacerdotales qu'après avoir accompli l'œuvre de la rédemption. Et il ne pouvait en être autrement, puisqu'il est évident que notre Seigneur a surgi de Juda, tribu à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Hébreux 7, verset 14. Car tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il était nécessaire que celui-ci aussi eût quelque chose à offrir. Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur, puisqu'il y a ceux qui offrent des dons selon la loi. Hébreux 8, versets 3 et 4. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, versets 11, 12 et 24. C'est le ciel et non la terre qui est la sphère du ministère sacerdotal de Christ, et il y entra après s'être offert lui-même sans tache à Dieu. Il n'entra jamais dans le temple terrestre comme sacrificateur. Il monta souvent au temple pour enseigner, mais jamais pour y sacrifier ou y offrir le parfum. Le Nouveau Testament distingue très exactement entre le temple proprement dit, Naos, Luc 1, verset 9, la maison même, divisée par un voile entre le lieu saint et le lieu très saint, et l'ensemble des cours et des bâtiments sacrés, Hieron, Matthieu 21, verset 12 et 23, Acte 3, verset 1, 2 et 3. En tenant compte de cette différence, on voit que le Seigneur Jésus n'est jamais entré dans la maison même, Naos, parce qu'il n'était pas sacrificateur selon la loi. Personne ne fut jamais établi de Dieu pour exercer les charges de la sacrificature sur la terre, sauf Aaron et ses fils. Si Christ était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur. Le ciel est la sphère et la rédemption la base de la sacrificature de Christ. Des sacrificateurs sur la terre, sauf dans le sens que tous les croyants sont des sacrificateurs, 1 Pierre 2, verset 5, il n'y a plus de sacrificateurs ou de prêtres sur la terre. La succession apostolique elle-même, si on pouvait prouver qu'elle existe, n'aurait absolument aucune valeur ici, puisque les apôtres eux-mêmes n'étaient pas des sacrificateurs, si ce n'est dans le sens que nous venons de rappeler. Le membre le plus faible de la maison de la foi est tout aussi bien un sacrificateur que l'apôtre Pierre lui-même. Il est un sacrificateur spirituel. Il adore dans un temple spirituel. Il se tient à un autel spirituel. Il offre un sacrifice spirituel. Il est revêtu de vêtements spirituels. Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Hébreux 13, versets 15 et 16. Si un descendant direct de la famille d'Aaron se convertissait à Christ, il entrerait dans un genre entièrement nouveau de service sacerdotal. Et, remarquez-le bien, les passages que nous venons de citer présentent les deux grandes classes de sacrifices que le sacrificateur spirituel a le privilège d'offrir. Il y a le sacrifice de louange à Dieu et le sacrifice de bienfaisance envers les hommes. Un double courant sort continuellement du chrétien qui réalise son caractère et son office de sacrificateur. Un courant de louange reconnaissante montant vers le trône de Dieu et un courant de bienfaisance active descendant vers les malheureux et les pauvres. Si ces choses étaient mieux comprises, quelle élévation et quelle grâce ne donnerait-elle pas au caractère chrétien ? Élévation puisque le cœur serait toujours dirigé vers la source divine de toute bénédiction. Grâce, puisque le cœur serait toujours ouvert à tout ce qui réclame ses sympathies. Ces deux choses sont inséparables. Le contact immédiat du cœur avec Dieu doit nécessairement l'élever et l'élargir. Mais si l'on marche à distance de Dieu, le cœur se resserre et languit. Consécration d'Aaron devant toute l'assemblée. Après ces considérations générales sur la sacrificature, nous en venons au contenu des chapitres 8 et 9. L'Éternel parla à Moïse, disant « Prends Aaron et ses fils avec lui, et les vêtements, et l'huile de l'onction, et le jeune taureau du sacrifice pour le péché, et les deux béliers, et la corbeille des pains sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Et Moïse fit comme l'Éternel lui avait commandé, et l'assemblée fut convoquée à l'entrée de la tente d'assignation. Chapitre 8, versets 1 à 5. Toute l'assemblée est convoquée afin que tous puissent avoir le privilège de voir celui à qui allait être confiée la charge de leurs plus importants intérêts. Les chapitres 28 et 29 de l'Exode nous enseignent la même vérité générale à l'égard des vêtements et des sacrifices sacerdotaux, mais dans le Lévitique, l'assemblée est introduite et il lui est permis de suivre des yeux chaque détail de l'imposant service de consécration. Chacun pouvait contempler la personne du souverain sacrificateur, le sacrifice qu'il offrait et les vêtements qu'il portait. Chacun avait ses besoins particuliers et le Dieu d'Israël voulait que chacun voie et sache qu'il était amplement pourvu à ses besoins par les divers attributs du souverain sacrificateur qui était devant lui. Les vêtements sacerdotaux étaient l'expression typique de ces attributs. Chaque partie du vêtement représentait quelques qualifications spéciales propres à intéresser profondément l'assemblée tout entière. La tunique brodée, la ceinture, la robe, l'éphod, le pectoral, l'urim et le thummim, la tiare, le saint diadème, tout déclarait les diverses vertus, qualifications et fonctions de celui qui devait représenter l'assemblée et en soutenir les intérêts en la présence de Dieu. Christ, notre grand souverain sacrificateur. C'est ainsi qu'avec l'œil de la foi, le croyant peut contempler son grand souverain sacrificateur dans les cieux et voir en lui les réalités divines dont les vêtements d'Aaron n'étaient que des figures. Le Seigneur Jésus-Christ remplit cet office, non en vertu de vêtements qu'on peut mettre ou ôter, mais en vertu de l'excellence de sa personne et de l'efficacité de son œuvre. C'est ce qui rend si précieuse l'étude des types de la dispensation de la loi. Dans chacun d'eux, l'œil éclairé par l'Esprit voit Christ. Il en est ainsi pour le sang du sacrificateur et pour le vêtement du souverain sacrificateur. S'il surgit une question de conscience, le sang du sacrifice y répond selon les justes exigences du sanctuaire. La grâce a satisfait à ce que demande la sainteté. Et s'il est question des besoins en rapport avec la position du croyant ici-bas, il les voit tous divinement satisfaits dans les vêtements du souverain sacrificateur. Ici, je dirais qu'il y a deux manières de contempler la position du croyant, deux aspects sous lesquels cette position est présentée dans la parole, et il faut en tenir compte pour pouvoir saisir le vrai sens de la sacrificature. Le croyant est représenté comme faisant partie d'un corps dont Christ est la tête. Ce corps, avec Christ sa tête, est présenté comme formant un seul homme, complet à tous égards. Le croyant a été vivifié avec Christ. Il est ressuscité avec Christ et assis en Christ dans les cieux. Il est un avec lui, complet en lui, accepté en lui. Il possède sa vie. Il est dans la faveur de Dieu. Tous les péchés sont effacés. Il n'y a aucune tache. Tout est beau et agréable aux yeux de Dieu. Voyez 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, Éphésiens 2, versets 5 à 10, Colossiens 2, versets 6 à 15, 1 Jean 4, verset 17. Ensuite, le croyant est considéré dans sa position de besoin et de faiblesse ici-bas dans ce monde. Il est toujours exposé aux tentations, porté à s'égarer, sujet à broncher et à tomber. En raison de cela, il a constamment besoin de la sympathie et du ministère de notre souverain sacrificateur. Celui-ci se tient toujours en la présence de Dieu, dans la pleine valeur de sa personne et de son œuvre. Il représente le croyant et défend sa cause devant Dieu. Il est nécessaire de bien considérer ces deux aspects du croyant, afin de voir non seulement quelle place élevée et privilégiée il occupe avec Christ, en haut, mais aussi quelle ample provision il y a pour répondre à tous ses besoins et à ses infirmités ici-bas. Cette distinction pourrait encore être formulée de cette manière. Le croyant est représenté comme étant de l'Église et dans le royaume. Dans le premier état, le ciel est sa place, sa demeure, sa portion, le siège de ses affections. Dans le dernier, il est sur la terre, lieu d'épreuve, de responsabilité et de combat. C'est pourquoi la sacrificature est une ressource divine pour ceux qui, quoiqu'étant de l'Église et appartenant au ciel, sont néanmoins dans le royaume et marchent sur la terre. Cette distinction est fort simple, et quand elle est bien comprise, elle explique nombre de passages de l'Écriture. Ainsi, la comparaison de l'Épître aux Éphésiens avec la première Épître de Pierre montre clairement le double aspect de la position du croyant. La première le montre comme assis dans les cieux, la seconde comme un pèlerin souffrant sur la terre. En étudiant les chapitres qui sont sous nos yeux, nous remarquons que trois choses y sont surtout mises en relief: l'autorité de la parole, la valeur du sang et la puissance de l'esprit. C'est ici ce que l'Éternel a commandé. Et d'abord, quant à l'autorité de la parole, il est de tout intérêt de voir que, dans la consécration des sacrificateurs, de même que dans toute la série des sacrifices, nous sommes placés immédiatement sous l'autorité de la parole de Dieu. Et Moïse dit à l'assemblée, « C'est ici ce que l'Éternel a commandé de faire. » Chapitre 8, verset 5. Et encore, « Et Moïse dit, « C'est ici ce que l'Éternel a commandé. Faites-le, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Chapitre 9, verset 6. Prêtons une oreille attentive à ces paroles. Pour Moïse, il n'y avait qu'une source d'autorité. C'était la parole de l'Éternel. Et il voulait que chaque Israélite soit mis en contact direct avec cette source. Cela donnait de l'assurance au cœur et de la stabilité à toutes les pensées. Il ne restait aucune place pour l'homme avec ses doutes et ses discussions. Tout était clair, concluant, péremptoire. L'Éternel avait parlé, et tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'écouter ce qu'il avait dit et d'obéir. Aucun expédient ne trouve de place dans le cœur qui a appris à apprécier et à révérer la parole de Dieu. Et quel devait être le résultat de cette stricte obéissance? La gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Si la parole n'avait pas été écoutée, la gloire ne serait pas apparue. Ces deux choses étaient intimement liées. Si l'on avait introduit un seul rite non ordonné par la parole, ou si l'on avait omis quoi que ce soit de ce que cette parole avait commandé, l'Éternel n'aurait pas manifesté sa gloire devant l'assemblée d'Israël. Il ne pouvait pas sanctionner, par la gloire de sa présence, la négligence ou le rejet de sa parole. Il peut supporter l'ignorance et la faiblesse, mais il ne peut autoriser la désobéissance. Lecteur, arrêtez-vous. Et devant celui qui sonde les cœurs, posez-vous à vous-même la question « Est-ce que je sanctionne par ma présence ou est-ce que j'adopte dans ma conduite quelque déviation ou quelque négligence de la parole de Dieu ?» Si vous découvrez que vous avez été de quelque manière impliqué dans une chose qui ne porte pas le cachet de la sanction divine, rejetez-la. Si vous ne pouvez pas dire de tout ce en quoi vous êtes engagé « C'est ici ce que l'Éternel a commandé », alors rejetez-le sans hésiter, renoncez-y pour toujours. Rappelez-vous ces paroles, « L'Éternel a commandé de faire comme on a fait aujourd'hui. » Chapitre 8, verset 34. Le huitième jour. Et Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait commandées par Moïse. Chapitre 8, verset 36. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, puis ils sortirent et bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie, et tombèrent sur leur face. Chapitre 9, versets 23 et 24. Nous avons ici la scène du huitième jour, une scène de la gloire de la résurrection. Aaron, ayant offert le sacrifice, élève ses mains pour bénir le peuple. Puis Moïse et Aaron entrent dans le tabernacle et disparaissent, tandis que tout le peuple attend au dehors. Enfin, Moïse et Aaron, représentant Christ dans son double caractère de sacrificateur et de roi, sortent et bénissent le peuple. La gloire apparaît dans toute sa splendeur, le feu consume l'holocauste et toute l'assemblée se prosterne et adore. Avant de quitter cette partie du sujet, je rappellerai au lecteur que tout le contenu de ces chapitres n'est qu'une ombre des biens à venir. Cela, du reste, peut se dire de toute l'économie de la loi. Hébreux 10, verset 1. Aaron et ses fils réunis représentent Christ et sa maison sacerdotale. Aaron seul représente Christ dans ses fonctions de sacrificature et d'intercession. Moïse et Aaron ensemble représentent Christ comme roi et sacrificateur. Le huitième jour représente le jour glorieux où le peuple d'Israël verra le Messie assis sur son trône comme sacrificateur et roi et où la gloire de l'Éternel remplira toute la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ces vérités sublimes sont amplement développées dans l'Écriture. Voir en particulier Nombre 14, verset 21, Ésaïe 9, verset 6 et 7, 11, 25, verset 6 à 12, 32 versets 1 et 2, 35, 37 versets 31 et 32, 40 versets 1 à 5, 54, 59 versets 16 à 21, 60 à 66. Jérémie chapitre 23 versets 5 à 8, 30 versets 10 à 24, 33 versets 6 à 22, Ézéchiel 48 verset 35, Daniel 7 versets 13 et 14, Osée 14 versets 4 à 9, Sophonie 3 versets 14 à 20, Zacharie 3 versets 8 à 10, 6 versets 12 et 13 et 14. Le sang de la victime. Venons-en maintenant au second point mentionné, l'efficace du sang. Il est largement développé. Que nous considérions les sacrifices ou la sacrificature, nous voyons que l'effusion du sang y a une place importante. Et il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau du sacrifice pour le péché. Et on l'égorgea, et Moïse prit le sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel, tout autour, et il purifia l'autel, et il versa le sang au pied de l'autel et le sanctifia, faisant propitiation pour lui. Chapitre 8, versets 14 et 15. Et il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier, et on l'égorgea, et Moïse fit aspersion du sang sur l'autel tout autour. Versets 18 et 19. Et il fit approcher le second bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier, et on l'égorgea, et Moïse prit de son sang et le mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Et il fit approcher les fils d'Aaron, et Moïse mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, et sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Et Moïse fit aspersion du sang sur l'autel tout autour. Versets 22 à 24. Le sens des divers sacrifices a été développé dans les premiers chapitres de ce volume. Mais les passages que je viens de citer font ressortir la place importante que le sang occupe dans la consécration des sacrificateurs. Il fallait une application du sang sur l'oreille pour écouter les divines communications, sur la main pour exécuter les services du sanctuaire, et sur le pied pour marcher dans les parvis de la maison de l'Éternel. Dans tout l'ensemble du service lévitique, nous remarquons la valeur et la large application du sang. Or, Christ est entré avec son propre sang dans le ciel même. Hébreux 9, verset 24. Il paraît maintenant pour nous devant Dieu, en vertu de tout ce qu'il a accompli sur la croix. Sa présence sur le trône atteste la valeur et l'acceptation de son sang expiatoire. Il est là pour nous, et il est toujours vivant. Il ne change jamais. Nous sommes en lui, et comme il est. Il nous présente au Père dans sa propre perfection éternelle, et le Père prend plaisir en nous, présenté de la sorte, tout comme il prend plaisir en lui. Cette identification est représentée typiquement par Aaron et ses fils, posant leurs mains sur la tête de chacune des victimes. Ils étaient tous devant Dieu dans la valeur du même sacrifice. Que ce soit le taureau du sacrifice pour le péché, le bélier de l'Holocauste ou le bélier de consécration, ils posaient ensemble les mains sur chacun d'eux. Il est vrai qu'Aaron seul était oint avant l'aspersion du sang. Il était revêtu des vêtements de son office et oint de l'huile sainte avant que ses fils le soient. La raison en est évidente. Aaron, quand il est seul, est le type de Christ, dans son excellence incomparable et dans sa dignité propre. Nous savons que Christ fut manifesté dans toute sa valeur personnelle et fut oint du Saint-Esprit avant l'accomplissement de son œuvre expiatoire. En toute chose, il tient la première place. Colossiens 1, verset 18. Cependant, plus tard, il y a la plus entière identification entre Aaron et ses fils, comme il y a la plus entière identification entre Christ et son peuple. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. Hébreux 2, verset 11. La puissance de l'Esprit. Cette vérité de la distinction et en même temps de l'unité de la tête et des membres nous amène tout naturellement à notre troisième et dernier point, savoir la puissance de l'Esprit. Nous pouvons remarquer tout ce qui se passe entre l'onction d'Aaron et celle de ses fils avec lui. Le sang est répandu, la graisse est consumée sur l'autel, et la poitrine est tournoyée devant l'Éternel. En d'autres termes, le sacrifice de Christ est accompli, la bonne odeur en monte jusqu'à Dieu, et celui qui l'a offert monte dans la puissance de la résurrection et prend sa place en haut. Tout cela se passe entre l'onction de la tête et l'onction des membres. Lisons et comparons les passages. D'abord, quant à Aaron seul, nous lisons « Et il mit sur Aaron la tunique et le ceignit avec la ceinture et le revêtit de la robe et mit sur lui l'éphod et le ceignit avec la ceinture de l'éphod qu'il lia par elle sur lui. Et il plaça sur lui le pectoral et mit sur le pectoral les urim et les thummim et il plaça la tiare sur sa tête et, sur la tiare, sur le devant, il plaça la lame d'or, le saint diadème, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Moïse prit l'huile de l'onction, et oignit le tabernacle, et toutes les choses qui y étaient, et les sanctifia. Et il en fit aspersion sur l'autel 7 fois. Et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve et son soubassement, pour les sanctifier. Et il versa de l'huile de l'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit pour le sanctifier. » Chapitre 8, versets 7 à 12. Nous avons ici Aaron seul. L'huile de l'onction est répandue sur sa tête, en même temps que sur tous les objets du tabernacle. Le peuple tout entier peut voir le souverain sacrificateur être revêtu de ses vêtements officiels, puis recevoir l'onction. Or, dans cette onction d'Aaron seul, préalablement à l'effusion du sang, nous avons un type de Christ qui, jusqu'à ce qu'il s'offre lui-même sur la croix, était entièrement seul. Il ne pouvait y avoir d'union entre lui et son peuple, si ce n'est sur le principe de la mort et de la résurrection. Cette vérité a déjà été mentionnée en rapport avec le sujet du sacrifice, mais elle gagne encore en force quand on la voit si distinctement présentée en rapport avec la question de la sacrificature. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de rémission. Le sacrifice n'était pas complet. De même aussi, sans effusion de sang, Aaron et ses fils ne pouvaient pas être oints ensemble. Et Moïse prit de l'huile de l'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, et sur ses fils, et sur les vêtements de ses fils avec lui. Il sanctifia Aaron, ses vêtements, et ses fils, et les vêtements de ses fils avec lui. Chapitre 8, verset 30. Pourquoi les fils d'Aaron ne sont-ils pas oints avec lui au verset 12? Simplement parce que le sang n'avait pas été répandu. Et Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Cuisez la chair à l'entrée de la tente d'assignation, et vous la mangerez là, ainsi que le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme j'ai commandé en disant, « Aaron et ses fils les mangeront. Et le reste de la chair et du pain, vous le brûlerez au feu. Et vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente d'assignation pendant 7 jours, jusqu'au jour de l'accomplissement des jours de votre consécration, car on mettra 7 jours à vous consacrer. L'Éternel a commandé de faire, comme on a fait aujourd'hui, pour faire propitiation pour vous, et vous demeurerez pendant 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous garderez ce que l'Éternel vous a donné à garder, afin que vous ne mouriez pas, car il m'a été ainsi commandé. » Versets 31 à 35. Ces versets offrent un beau type de Christ et de son peuple se nourrissant ensemble des résultats de l'expiation accomplie. Aaron et ses fils ayant été oints ensemble en vertu du sang répandu, nous sont présentés ici, enfermés pour 7 jours, dans l'enceinte du tabernacle. Cette scène évoque la position actuelle de Christ et de ses membres pendant toute la durée de cette dispensation, mis à part pour Dieu, en attendant la manifestation de la gloire. Position bénie. Bienheureuse espérance, être associé avec Christ, près de Dieu, attendre le jour de la gloire, et en l'attendant, se nourrir des richesses de la grâce divine dans la sainteté, ce sont là des bénédictions infiniment précieuses. Puissent nos cœurs être détachés de ce présent siècle mauvais, pour que nous puissions nous nourrir du contenu de la corbeille de consécration, qui est notre aliment propre en tant que sacrificateur dans le sanctuaire de Dieu. La gloire du règne millénaire. Et il arriva, le 8e jour, que Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël, et il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste, sans défaut, et présente-les devant l'Éternel. Et tu parleras aux fils d'Israël en disant, « Prenez un bouc pour le sacrifice pour le péché, et un veau, et un agneau âgé d'un an, sans défaut pour l'holocauste, et un taureau et un bélier pour le sacrifice de prospérité, pour sacrifier devant l'Éternel, et une offrande de gâteau pétri à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Chapitre 9, verset 1 à 4. Les 7 jours pendant lesquels Aaron et ses fils étaient retirés dans le tabernacle étant passés, toute l'assemblée est maintenant introduite et la gloire de l'Éternel se manifeste. Cela complète toute la scène. Les ombres des biens à venir passent ici devant nous dans leur ordre divin. Le 8e jour est une ombre de ce beau matin millénaire qui poindra sur cette terre quand le peuple d'Israël verra le vrai sacrificateur sortant du sanctuaire, où il est maintenant caché aux yeux des hommes, accompagné du corps des sacrificateurs, compagnon de sa retraite et associé à sa gloire manifestée. Comme ombre ou type, c'est merveilleusement complet. En premier lieu, Aaron et ses fils, lavés avec de l'eau, type de Christ et de son Église, considérés dans le propos éternel de Dieu, sanctifiés ensemble. Chapitre 8, verset 6. Puis nous avons le mode et l'ordre dans lequel ce but devait être atteint. Aaron est vêtu et oint seul, type de Christ sanctifié et envoyé dans le monde et oint du Saint-Esprit. Versets 7 à 12. Voir Luc 3, versets 21 et 22, Jean 10, verset 36 et 12, verset 24. Ensuite, nous avons la présentation et l'acceptation du sacrifice, en vertu duquel Aaron et ses fils étaient oints et sanctifiés ensemble, versets 14 à 29, type de la croix dans son application à ceux qui constituent maintenant la famille sacerdotale de Christ, qui sont unis à lui, oints avec lui, cachés avec lui, et attendant avec lui le 8e jour, où il sera manifesté avec eux dans tout l'éclat de cette gloire qui lui appartient, selon le conseil éternel de Dieu. Jean 14, verset 19, Acte 2, verset 33, et 19, verset 1 à 7, Colossiens 3, verset 1 à 4. Enfin, nous avons Israël, amené à la pleine jouissance des résultats de l'expiation accomplie. Ils sont assemblés devant l'Éternel. Aaron éleva ses mains vers le peuple et les bénit, et il descendit, après avoir offert le sacrifice pour le péché et l'holocauste, et le sacrifice de prospérité. Chapitre 9, versets 1 à 22. Maintenant, que reste-t-il à faire? Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, puis ils sortirent et bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses, et tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie, et tombèrent sur leur face. Versets 23 et 24. C'était le cri de la victoire, l'adoration. Tout était accompli. Le sacrifice, le sacrificateur avec ses vêtements et sa tiare, la famille sacerdotale associée à son chef, la bénédiction du sacrificateur suprême, rien ne manquait. C'est pourquoi la gloire divine se manifeste et tout le peuple se prosterne en adorant. C'est une scène vraiment magnifique, une ombre merveilleusement belle des biens à venir. Réjouissons-nous à la pensée que tout ce qui est ici représenté par des types sera bientôt pleinement réalisé. Notre grand souverain sacrificateur est entré dans les cieux, dans la pleine vertu et la puissance d'une expiation accomplie. Il s'y tient caché maintenant, et avec lui aussi en principe, tous les membres de la famille sacerdotale. Mais quand les 7 jours seront écoulés, et que le 8e jour jettera ses rayons sur la terre, alors le résidu d'Israël, peuple repentant et dans l'attente, saluera avec un cri de victoire la présence visible du sacrificateur royal. Et dans une intime union avec lui, on verra une multitude d'adorateurs occupant la position la plus élevée. Voilà ce qu'il vaut bien la peine d'attendre, des choses dignes de Dieu qui les donne, des choses par lesquelles il sera éternellement glorifié et son peuple éternellement béni.